Vous avez bien une anecdote à nous raconter.
Ah oui, je vais vous raconter.
Le témoin de ce vendredi, Pierre Barillet ou au théâtre ce soir. Au théâtre ce soir, l'émission qui ouvrit les portes des salles de spectacle à tant de téléspectateurs qui n'en avaient pas les clés, diffusait souvent des pièces de Barillet et Grédy. Beaucoup se souviennent ainsi d'avoir découvert Peau de vache ou Fleur de cactus. De plus jeunes spectateurs, tout récemment, ont vu eux Potiche au cinéma grâce à l'adaptation de François Ozon. En réalité, le succès était venu à Barillet et Grédy dès 1950 avec le Don d'Adèle. Ils devenaient soudain les personnalités du monde au sens mondain du mot. On les invitait à toutes sortes de fêtes et de dîners. On attendait qu'ils brillent. Au sens international du mot, surtout, leurs pièces ont franchi les frontières et l'Atlantique. Ils vont écrire en tandem et avec succès pendant 30 ans et plus. Des deux, Pierre Barillet est peut-être le plus innombrable. Il continue à publier et il rêve encore de la pièce qu'il aurait pu écrire et qui aurait étonné Anouilh ou Cocteau. Cela ne signifie pas pour autant que sa réussite soit le signe d'un échec.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Bonjour Pierre Barillet.
Bonjour.
Vous avez fait de la radio avant même d'avoir du succès au théâtre. Il y a les vendredis de Monsieur Lebrun et il y avait les samedis de Madame Pigeolet.
Oui, avec Agnès Capri.
Hey, je ne vais pas me comparer à Agnès Capri.
Pourquoi pas?
Ah ben non, j'ai cueilli cette anecdote dans l'un de vos deux livres de mémoire publiés chez De Fallois. Et puis, vous voilà avec 10 de vos pièces rééditées chez Omnibus. Et puis, on parlera aussi d'un précieux petit ouvrage consacré à Simone Simon. Comment on prononce Simone Simon en américain?
Oh, Simone, Simone.
Alors, ceux qui ne se souviennent pas d'elle en sauront un peu plus, peut-être, tout à l'heure. Je citais dans le chapeau le nom de Cocteau, parce que m'est revenu ce souvenir. Cocteau a découvert le théâtre, enfant, guettant sa mère qui enfilait les gants le soir et qui sortait dans un sillage de parfums pour un endroit où lui, le gamin, il aurait bien aimé la suivre.
Oui, le théâtre. Elle allait au théâtre. Elle en rapportait des programmes que Cocteau humait, respirait et qui lui entrouvrait l'avenir d'un monde merveilleux qui était le théâtre.
Et vous, c'est pareil ?
Écoutez, moi, c'est pareil. Bien avant de connaître Cocteau, je respirais comme la Bible les programmes que mes parents rapportaient du théâtre. Je rêvais sur les photos des actrices qui, en général, donnaient des photos de 20 ans plus jeune qu'elle n'était.
Alors vous, quand vous passez au Palais Royal, vous regardez les fenêtres de l'entresol de Jean Cocteau. C'est un acte fondateur que celui qui vous a mené régulièrement dans cet entresol à partir de l'occupation. Puis il y a un autre moment fondateur que j'aimerais vous faire revivre. Pendant l'occupation, un nombre incalculable de fois, vous êtes allé aux Français écouter Marie-Belle dans Phèdre.
Phèdre, pressé par sa nourrice Hénone, vient de lui faire l'aveu de l'incestueux amour qu'elle éprouve pour Hippolyte, fils de Thésée, lui-même fils d'Égée, roi d'Athènes.
Je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps et transir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui baptisai un temple et pris soin de l'orner. De victimes, moi-même, à toute heure entourée, je cherchais dans leur flanc ma raison égarée.
Vous regardant, je sens qu'il se passe encore quelque chose.
Oui, je suis très ému en entendant Marie-Belle, cette voix admirable.
Mais quand même, vous l'avez assez connu ensuite pour connaître aussi ses travers. Vous racontez la rencontre entre la Magnanie et Marie-Belle.
Oh ben, il n'y a pas de travers dans cette rencontre. C'est-à-dire, toutes les deux, on s'attendait, on retenait son souffle, on voyait Maribel, qui était beaucoup plus grande que la Magnanique, un petit peu tassée. Mais enfin, elles sont allées l'une vers l'autre, vraiment, comme deux généraux, comme des chefs d'armée. Et elles ont ouvert leurs bras l'une à l'autre. Elles sont tombées dans les bras l'une de l'autre. Elles se sont embrassées. Maribel a dit « Bellissima !» Et voilà. Et puis alors, on les observait, on se dit « C'est deux grands, n'est-ce pas ? Dieu sait quelles confidences vont-elles échanger. » Elles se sont assises sur un canapé l'une à côté de l'autre et elles n'avaient rien à se dire. Elles se regardaient, elles n'avaient absolument plus rien à se dire.
Alors, pas de travers chez Maribel à ce moment-là. Des ridicules chez certaines tragédiennes. Vous racontez que Maribel vous a emmené déjeuner un jour chez Cécile Sorel. Alors, Cécile Sorel remonte à une plus haute antiquité encore et faisait semblant d'être tragédienne, mais vous ne l'avez jamais prise vraiment au sérieux.
Non, je l'ai vue sur scène, Cécile Sorel. Je l'ai vue jouer Andromaque avec Tonia Navarre. C'était un spectacle hallucinant. Ces deux vieilles cabotines habillées dans les vieux rideaux. J'avais été assisté à la représentation avec Jean Marais. Jean Marais s'étouffait de colère, disant « Faut qu'on les tue, faut qu'on les tue, faut qu'on les condamne !»
Et 15 ou 20 ans après, elle est encore vivante, bien que retirée dans l'Oise. Cécile Sorel, et elle vous reçoit avec Maribel.
Oui, Maribel voulait vraiment marquer les différences d'âge. Elle s'était habillée très jeune en petit marin pour aller déjeuner chez Cécile Sorel. Maribel apportait le déjeuner d'ailleurs, et Cécile Sorel se prenait déjà pour une mère supérieure. Des tourterelles volaient autour d'elle dans la salle à manger. Et quand une sorte de maître d'hôtel qui devait être un homme à tout faire dans la maison, mais avec beaucoup de style quand même, passait de l'un à l'autre avec le poulet froid qu'avait apporté Maribel. Ce valet s'est penché vers moi et m'a dit « Laissez le croupion, madame l'adore
!» Alors, une tragédienne, même quand elle est grande, c'est pas le cas de Cécile Sorel, c'est le cas de Maribel, peu mûrissante, ne plus avoir d'emploi. Et c'est au boulevard qu'on a trouvé Maribel, avec Félicien Marceau.
Enfin, ça a été une mutation. Elle n'avait plus vraiment sa place. Elle a été de querelle en querelle avec la Comédie française, des départs, des retours. Enfin, c'était fini. Et Félicien Marceau, très à la mode à l'époque, il avait une pièce qui avait eu beaucoup de succès qui s'appelait L'œuf. Et enfin, on annonçait La Bonne Soupe. La Bonne Soupe devait être jouée par Madeleine Robinson. Et Madeleine Robinson s'est tordu la cheville dans sa salle de bain. En tout, bref, il a fallu, on a cherché une remplaçante à Madeleine Robinson. Ils ont pensé à Maribel. Et Maribel était très, 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 très réservée. Elle a trouvé que c'était très loin de Racine comme style. Sans moi, peut-être ne l'aurait-elle pas joué. Ça a l'air très, très vaniteux de dire ça. Mais j'étais tellement persuadé qu'elle pouvait rebondir et que ce rôle lui convenait à merveille. J'ai tout fait vraiment pour la persuader. Non, je n'ai pas dû être le seul à la décider. Mais j'ai joué mon rôle quand même dans cette aventure.
Après le succès du Don d'Adèle, nous sommes en 1951, Pierre Barillet, avec Grédy, vous vous installez chez Maribel pour écrire. Alors, vous êtes soit dans un appartement qui vous est prêté, comme celui-ci à Monaco, soit dans les maisons de Grédy. Comment se passe l'écriture à deux ?
L'écriture à deux se passe d'une manière extrêmement intime et vivante. C'est-à-dire que nous sommes les premiers acteurs et les premiers spectateurs de nos pièces. C'est un échange permanent de dialogue et selon nos réactions, on consigne la réplique ou pas. C'était Grédy qui tenait la plume en général. Il considérait que quand je bougeais, j'avais davantage d'idées. C'est un travail qui s'est fait vraiment d'une manière extrêmement vivante. Je ne crois pas du tout que ce soit un bon système pour écrire une tragédie. Mais pour une comédie où le dialogue, quand même, est très, très important, doit rebondir, eh bien, la parole immédiate, je pense que ça a été un atout.
On l'écrit souvent, Pierre Barillet, en pensant à des comédiennes. En voici deux que vous allez entendre dans les archives des années 1950 et qui vous ont échappé l'une et l'autre. La première, c'est dans Marcel Achard, qu'on l'entend ici, les compagnons de la Marjolaine, elle est dirigée par Yves Robert.
Alors, on va prendre la scène du 3, hein ?
Oui, Arlette, et maintenant je t'écoute.
Et maintenant je t'écoute.
Eh ben, je suis devenu fou, voilà.
Toi ?
Moi. Il y a trop de désordre partout. Moi, je croyais à des choses.
À l'ordre.
Ah, et puis je t'aimais trop, comprends-tu ? Je voulais comprendre. Enfin, vous comprendre. Après tout, c'était une femme comme toi. Une autre femme.
À la mode Beuvron ?
Au café de la forêt.
La grande Charlotte ?
Non, Pélagie. Elle est venue s'asseoir en face de moi, j'avais pas la tête à ça, tu le devines. Je lui ai d'abord dit, je ne suis pas celui que vous croyez.
Qu'est-ce que tu croyais donc, elle croyait ? Et puis ?
Et puis, oh, je vais pas te raconter mes histoires d'hommes.
Tu l'as suivie ?
En tout cas, je lui ai donné l'argent pour Dagobert.
Tout l'argent de Dagobert ?
Oui, c'était pour expier.
Elles gagnent bien leur vie à la mode Beuvron.
Nina, je pense à ton mari.
Tiens, pourquoi faire ?
Nina, tu m'as déjà dit, ton mari, c'est un brave homme.
Un brave homme, un très brave homme. Il va à son bureau du matin au soir, sérieux comme le pape. Aujourd'hui, il a fallu que je me mette en colère pour qu'elle les entende. Mais comme c'était semaine anglaise et comme son rhume était très fort, alors j'ai commandé.
C'est toi qui commandes, naturellement.
Mais qui veux-tu adorer ? Je n'ai pas un homme, c'est une serviette.
Eh bien, cette serviette est ton mari.
Mais non, une serviette, ce n'est pas du mari. Une serviette, c'est une serviette, toujours mourante. Toujours imbécile. Et lui, c'est une serviette, toujours malade, toujours armée. Ce n'est pas son nez, c'est sa tête. Ce n'est pas la tête, c'est l'estomac.
Oh, en tout cas, c'est un brave homme.
Ah, oh, oui, ça.
De santé délicate, il faut le dire. C'est bon, travailleur et honnête.
Ah,
mais enfin, c'est tout de même lui qui gagne sa vie, ton confort.
Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre?
Et tu le trompes?
Moi, je le trompe?
Oh, ben, oh, il semble, oui.
Trésor, mais toi qui es mon amant, tu ne peux pas comparer.
Enfin, quoi, il est cocu?
Mais naturellement qu'il est cocu, puisque c'est mon mari, voilà.
Dans Nina d'André Roussin, Elvire Popesco, à qui vous fabriquez des personnages qui devraient lui aller comme un gant et qui, en général, vous les refusent?
Oui, c'est une très grande malchance parce que je vois une admiration inconditionnelle à Elvire Popesco qui me faisait passer du rire aux larmes avec une facilité incomparable. Mais c'était une personne très, très versatile. Et voilà, ça n'a pas collé.
C'est-à-dire que quand vous lui proposiez une adaptation, ça s'appelait Le Pont japonais. Vous avez fait beaucoup d'adaptations de l'anglais. Vous dites, c'est un japonais extraordinaire. La dame qui va le séduire est donc un personnage de première grandeur et vous répond...
C'est même pas l'empereur. Ouais. Et puis elle nous a dit en plus c'est une femme qui n'est qu'une femme. Elle fait la cuisine, Popescu ne fait pas la cuisine. Si vous m'écrivez un rôle, écoutez, faites un vrai rôle de femme mais écrivez-le comme pour un homme.
Et Arletty qu'on a entendu avant, elle a aussi, à vous entendre, vous pouvez avoir la patte dure, un registre un peu étroit.
Écoutez, Arletty, moi j'admirais beaucoup Arletty, non pas comme comédienne, je trouve que ce n'était pas une bonne comédienne, mais c'était une personnalité incomparable. Et dans le rôle d'Arletty, personne ne pouvait être meilleur qu'elle. Mais j'ai une certaine amitié pour Arletty, mais après qu'elle nous ait donné son accord pour créer l'une de nos pièces, il s'est trouvé que la pièce allait être montée quelques mois plus tard, mais elle avait d'autres projets. Et quand je lui dis, mais Arlette, vous nous aviez promis, et elle m'a répondu, je vous ai signé quelque chose, pour moi les paroles c'est du vent.
Vous publiez un petit livre très précieux aux éditions La Tour Verte. En même temps que le théâtre avec Grady, ça c'est chez Omnibus, il y a ce mince et très élégant volume qui est consacré à Simone Simon. Alors Simone Simon, elle a eu un lancement, dites-vous, avant-guerre comparable à celui de Brigitte Bardot. Elle est allée à Hollywood beaucoup plus que Brigitte Bardot. Et vous l'avez connue longtemps, après la Deuxième Guerre mondiale. Elle vous intéressait parce qu'elle avait une beauté singulière.
Mais elle a révolutionné la beauté de la jeune première dans le cinéma des années 30. C'était des beautés très régulières, des madones. Elles avaient toutes l'air d'avoir 30 ans. Tandis que Simone Simon avait un visage de petit chat, un petit nez retroussé. Enfin, elle a complètement renouvelé la beauté au cinéma. Du jour au lendemain, toutes les jeunes filles qui se cachaient avant ont voulu essayer de ressembler à Simone Simon.
On va entendre deux personnages qui ont un peu révolutionné le monde de la chanson. Vous les avez écoutés un soir. C'était une nuit très longue qui les a réunis pour la dernière fois, tout près d'ici, à l'hôtel de Lamballe, l'actuelle ambassade de Turquie. Il s'appelle Charles Trenet et Johnny S. Johnny S, pendant l'occupation, habitait cet hôtel de Lamballe.
Johnny S. habitait cet hôtel de Lamballe. Je ne sais pas du tout ce qu'était l'immeuble à cette époque-là. Et en tout cas, il y avait un appartement. Je crois que nous y sommes allés avec Charles Trenet après son tour de chant. Je ne sais plus exactement les circonstances dans lesquelles je me suis retrouvé là, mais ça a été une nuit absolument enchantée parce que Trenet et Johnny S. ne se voyaient plus très très souvent. C'était des retrouvailles pour eux également. Et ils se sont mis au piano et ils ont ressuscité les premières chansons qu'ils avaient chantées en duettiste et qui avaient été au début de leur carrière. Et ça a été une nuit absolument miraculeuse.
Vacances, pour moi quelle chance, tu m'avais dit à bientôt à Paris, mais la grande ville est très hostile, aux tendres vœux sur la plage, promis, viendras-tu, Nini, pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie, petite aux yeux si doux, trésor que j'aime. Comme un idiot, j'attends et je m'ennuie, et je me pose aussi plus d'un problème. Pourtant on s'est connu par une belle nuit, le ciel était si pur, la mer si belle. Oui mais soudain voilà, tout est sombre aujourd'hui, pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie. J'ai mes chaussettes qui font tempête, j'ai des frissons jusque dans mes caleçons. Et dans la brume, j'attrape un rhume. Combien de garçons sont-ils morts de cette façon? N'importe quoi, n'importe quoi, ni non. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie? Petite aux yeux si doux, trésor que j'aime. Tout seul, comme un idiot, j'attends et je m'ennuie. Et je me pose aussi plus d'un problème. Pourtant on s'est connu par une belle nuit, dans tout le casino c'était la fête, puisque tu m'as dit oui, tout en baissant la tête. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie, sous la pluie.
Marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Et le témoin de ce vendredi, c'est Pierre Barillet. Dites-moi, s'il vous arrivait de donner rendez-vous à Ninon et de ne pas être insensible aux attraits de certaines femmes, votre attirance vous portait quand même. C'est pas une indiscrétion de dire ça, hein, vous en parlez longuement dans vos deux livres de mémoire chez De Fallois, vers les garçons.
Ben oui.
Et c'était pas du tout un problème pour vous de le montrer d'une manière relativement optimiste et sereine dans votre vie quotidienne?
Vous savez, je suis très âgé et dans ma jeunesse, l'homosexualité n'était quand même pas acceptée aussi facilement qu'aujourd'hui. Donc, on était tenu à une certaine discrétion. D'ailleurs, en plus, mon tempérament qui était vraiment... j'étais très timide, donc ça ne m'incitait pas non plus à m'exposer. Et puis, j'ai toujours détesté les démonstrations. Je suis plutôt effacé.
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est le mot. Vous avez peut-être aussi une manière... Vous utilisez les deux adjectifs poétique, voire aristocratique, d'être pédé, parce que vous ne dites pas gay, vous, hein. Une manière aristocratique, ça veut dire quoi?
Non, je ne crois pas du tout à l'aristocratie. Je suis d'une bourgeoisie très moyenne. Et non, si j'emploie le terme aristocratique, ben je veux essayer de parler de politesse, d'égard, de discrétion. Je n'aime pas du tout les gens qui s'affichent, quel qu'en soit le domaine, n'est-ce pas? Je trouve qu'on est tenu à une certaine réserve.
Donc la Gay Pride, c'est quelque chose qui est comparable à un cabaret de travesti par rapport au théâtre, quoi?
Un peu pour moi, oui, j'ai été très mal vu d'avoir dit cela, mais c'est un peu ce que je pense.
Dites-moi, au théâtre, l'homosexualité était présente depuis Édouard Bourdet jusqu'à André Roussin, à l'époque où vous écriviez, avant même que vous n'écriviez jamais dans vos pièces avec Grédy.
Non, parce que... Non, je n'ai pas de raison, d'ailleurs. C'est que nous n'avons pas du tout été inspirés par l'homosexualité. Dans notre dernière pièce, qui s'appelait Magic Palace, qui n'a pas été un succès, il y a un personnage qui est vraiment ouvertement homosexuel, et l'intrigue, d'ailleurs, tourne partiellement autour de son homosexualité. Mais non, nous n'avons pas été inspirés par l'homosexualité. Nous n'avons eu rien à dire de particulier ou qui puisse servir cette cause, ni bien entendu la desservir.
Mais vous ne vouliez pas rendre la folle ridicule ?
Non, absolument pas. Dans Folamanda, il y a un personnage secondaire qui a été joué par un acteur qui a exagéré d'une manière outrancière son personnage et ce n'est pas du tout ainsi que nous l'avions conçu.
Vous en parliez souvent ensemble, Grédy et vous, parce que vous racontiez « Je suis amoureux d'un garçon, il faut bien le suivre. Alors, il est champion de ski et je me casse la jambe à chaque fois. » Et qu'est-ce qu'il vous répond, Grédy ? Vous vous souvenez ?
La prochaine fois, ça sera peut-être un parachutiste.
Alors, revenons maintenant au succès affichées et aux femmes qui les ont inspirées. L'actrice qu'on va entendre cette fois-ci, elle a beaucoup travaillé avec vous. Nous sommes au milieu des années 1970. Elle rencontre son vétérinaire dans une petite ville de province.
Bernard. Madame Brucker.
Vous qui me connaissez assez bien, est-ce que vous trouvez que je suis une femme méchante?
Vous ? Oh, je ne dirais pas cela.
Non, n'est-ce pas ?
Vous êtes la reine des garces.
Comme ça, au moins, on est fixé.
Vous ne vous en doutiez pas ?
Il est vrai que vous êtes un misogyne et que vous tenez toutes les femmes pour responsables de votre fortune.
Il ne faut pas me demander.
Une garce, c'est vite dit. Pourquoi une garce ? Et en plus de tout, la reine.
Mais vous êtes une garce parce que vous êtes une garce. Dans le patelin, tout le monde est d'accord là-dessus. Madame Brucker est une garce, la reine des garces.
À ce point-là.
Ah, il n'y a personne pour soutenir le contraire.
En admettant que je sois ce que vous dites, comment l'expliquez-vous?
Il y a de mauvaises bêtes.
Oui.
Mais pourquoi ça ne serait pas pareil chez les gens? Ainsi, moi, tenez, j'avais une chienne labrador. Très bonne chasseuse. Elle dormait au pied de mon lit, guettait mon regard des heures entières. Et quand je m'absentais, refusait toute nourriture.
C'est pas plus affectueux qu'un labrador.
Et seulement celle-là, elle mordait tout le monde.
Pourquoi ?
Oh, elle pouvait pas s'en empêcher, c'était plus fort
qu'elle. Alors qu'avez-vous fait ?
J'ai été obligé de la garder tout le temps enchaînée, j'ai mis un écriteau à ma porte. Attention, chien méchant.
Ça va peut-être faire la même chose ici. Attention, femme méchante.
Le rôle du vétérinaire qui a été tenu en alternance selon qu'on était à Paris ou en tournée par Jacques Joanneau et Pierre Mira. Parce qu'on faisait beaucoup de tournées. Alors, Sophie Desmarais, quand elle a un succès avec vous, c'est un an, deux ans à Paris. Et les tournées, c'est être enchaîné à Barillet et Grédy.
Absolument, oui. On a été très très heureux de cette exclusivité avec Sophie Desmarais, mais il m'est souvent arrivé de regretter que cette actrice absolument exceptionnelle n'ait pas fait une carrière à la Comédie Française. Elle aurait joué Marivaux, Molière, elle serait passée des comtesses aux soubrettes avec une aisance et un esprit incomparable.
Mais elle était marquise néanmoins par son mariage.
Elle était marquise par son mariage, mais enfin, elle ne s'en targuait pas, vraiment, non. Elle en riait.
Alors, pour vous, c'est la préférée ?
Oui, c'est la préférée. Oui, elle nous a inspirés, elle nous a tout apporté. Elle servait les auteurs. D'autres actrices se servent des auteurs. Pas Sophie Desmarais.
Elle a trop peur des auteurs, elle a peur de la scène, elle a le trac.
Elle a le trac, d'ailleurs, c'est ce qui a limité sa carrière. Elle adorait répéter. Alors là, c'était une femme vraiment toujours disposée à travailler, mais elle avait peur, quand elle était en scène devant le public, elle avait peur d'avoir des pannes de mémoire, ce qui ne lui est pas arrivé. Et il lui arrivait de précipiter un peu trop son texte, d'ailleurs, parce qu'elle voulait arriver au bout. Donc, elle avait peur de la scène, elle n'a pas aimé jouer.
Mais elle n'aimait pas les textes trop longs. Elle ne voulait pas que vous fassiez des textes trop longs.
Ah non, elle ne voulait pas, puisque Fleur de Cactus, ça vraiment, où nous avons pensé à elle, elle dit « Oui, oui, je veux bien, mais je sors d'une pièce que je veux très longtemps. Écrivez-moi un rôle très court. » Le rôle est si court que les directeurs de théâtre croyaient qu'elle ne le jouerait jamais. L'autre rôle de la jeune fille, si on compte les lignes, est beaucoup plus long que le sien. Et elle disait « Mais qui sont bêtes tous. Ils ne voient pas la force de ce rôle. Ce rôle, c'est comme une tache d'encre. C'est une toute petite tache sur le buvard. Mais elle bouffe le buvard. »
L'actrice qu'on va entendre maintenant et qui a joué un rôle important dans la dernière partie de votre carrière, elle n'hésitait pas à rallonger les textes.
Moi, je mettrais mon cœur à Tanqui à la place de mon cœur est à qui.
Ah,
il semble
qu'il n'y aurait plus
de...
Carrément,
oui.
Oui,
alors si on
change déjà...
Bon, alors tu fais ce que tu veux. Oui, bon, d'accord, t'as raison. Oh, d'ailleurs, dans ce domaine, t'as toujours raison. Bon, allez, hop, je le joue pas mal en dos.
Non, si, mais bon.
Allez, hop, c'est parti. Allons-y. Un, deux, trois. On fera de Tanqui.
Bien.
On fera de Tanqui. Je voudrais savoir quand et comment ça tombera sur moi.
C'est ça.
Viendra-t-il du nord ou bien du midi? Je n'en sais rien et lui aussi doit faire des soucis. On fera de Tanqui, on fera de Tanqui. Il n'en sait rien, il n'est pas plus avancé que moi. Il doit s'énerver et je le comprends. De ne pas savoir ni qui, ni quoi, ni quand, ni comment. Paria,
Amanda, il n'y en a pas deux comme ça.
Joanneau. Jacqueline Maillan, dans une chanson de Michel Aimer, c'est dans « Folle Amanda ». Elle rallongeait parfois un peu, je n'arrive pas à vous le faire dire, les textes que vous aviez taillés de très près.
Moins qu'on le dit. Vous savez, nous étions très, très attentifs et quelquefois un petit peu trop chinois. Et très souvent, c'était à très bon escient parce qu'elle avait été quand même élevée à l'école du cabaret et elle savait ce qu'était un dialogue avec un public. Il y avait un échange permanent. Elle, à l'inverse de Sophie Desmarais, elle n'aimait pas du tout répéter parce qu'elle n'existait vraiment qu'avec le public. C'est avec le public qu'elle dialoguait, d'une certaine manière. Quand Pierre Mondy, son metteur en scène, lui disait « Et là, Jacqueline, tu ne joues pas au public ?»« Oh non, non, absolument pas », disait-elle. Mais enfin, elle ne faisait que ça. Mais c'était son système à elle. Elle a fait école et c'était quand même une très, très forte personnalité.
Alors, vous aimez bien monter des enchaînements très rapides. C'est le style de la comédie et le fait d'écrire à deux provoque l'accélération. De temps en temps, vous aimez bien qu'il y ait des émotions. Alors, quand Jacqueline Maillan se verse un verre d'eau, met dans le verre d'eau un barbiturique et qu'elle... réfléchit avec le public sur la manière dont elle va se suicider. Eh bien, ça ne fonctionne pas.
Parce qu'elle était timide. Et elle était tellement habituée au rire que quand elle a imposé le silence, elle a cru que quelque chose n'allait pas. Les gens se taisent, les gens ne rient pas. Et ça l'a complètement perturbée, alors qu'elle souhaitait démontrer ses qualités d'actrice capable de donner de l'émotion. Eh bien... c'était une grande timide, cette femme qui avait l'air d'un dragon, c'était une timide.
Qu'est-ce qu'elle a fait, elle a mis de l'Alka-Seltzer?
Elle a transformé cette scène qu'elle voulait dramatique en une scène du plus haut comique.
Comment?
Elle a fait hurler de rire. Eh bien, les comprimés qu'elle était supposée verser dans son verre pour s'empoisonner, elle les a remplacés par de l'Alka-Seltzer qui a commencé à bouillonner dans le verre. Ses bulles chatouillaient ses narines, son nez frémissait, la grimace n'était pas longue à venir et elle déclenchait des fous rires dans la salle. Et après tout, c'était sa fonction.
Si je lis Folle Amanda dans l'édition Omnibus que vous publiez, Pierre Barillet, je vois que c'est l'histoire d'une chanteuse célèbre qui a renoncé à sa carrière par amour. C'est un peu l'histoire de Simone Simon.
Oui, sa carrière commençait à fléchir quand même, mais elle avait toujours rêvé... de confort, elle avait toujours rêvé de mariage. Elle, ça n'a pas été Gigi, qu'elle rappelle par sa personnalité, mais Gigi, elle, finit par se marier. Simone Simon n'y est jamais arrivée.
Jacqueline Maillan, elle a fini chez Patrice Chéreau. Elle a fait comme ça le grand écart. Vous avez toujours rêvé d'écrire une pièce qui aurait étonné Cocteau, Anouilh, vos maîtres.
J'avais commencé déjà avec cet espoir, avec une pièce très dramatique que j'avais signée seule, qui s'appelait Les Amants de Noël, qui avait été créée au théâtre de Poche. Et j'ai bifurqué, naturellement.
Votre théâtre, ou du moins une dizaine de vos pièces écrites avec Grédy aux éditions Omnibus, et votre Simone Simon aux éditions La Tour Verte, je crois que c'est en Normandie. Tout renseignement sur notre site, où on peut aussi télécharger cette émission qui a été réalisée par Jacques Sigal avec le concours à la technique de Julien Chabassu et pour la préparation de Franck Olivard.